Voici Dan Bigra.
Alors, je vous rappelle la question, fentanyl, crise sanitaire majeure au Canada, êtes-vous inquiet? Vous pouvez m'appeler. J'ai gardé le docteur Sader en ligne parce que je vais vouloir lui parler plusieurs fois. Je le trouve très intéressant. Et on a avec nous Jessica Turmel, qui est spécialiste en dépendance et prévention et qui est psycho-éducatrice aussi. Bonjour, Madame Turmel.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Alors, vous intervenez comment, vous?
Oui, ben en fait, ça fait 15 ans que je suis sur le terrain, donc je travaille dans tout ce qui est prévention liée à l'usage des drogues. Pas prévention de l'usage, mais plutôt dans la réduction des méfaits. Donc, on cherche des solutions pour diminuer les risques qui sont associés à la consommation, sachant que ça existe, que ça va toujours exister, et que ben il y a des gens qui consomment, qui s'exposent à des risques, et qu'on peut diminuer ces risques-là.
Oui, parce que la grande prévention, en fait, elle doit remonter encore beaucoup plus haut que vous ou que les organismes qu'on connaît. Si on fabrique moins d'enfants malheureux puis qu'on a un système scolaire qui mise sur leur force au lieu de leur faiblesse, on en retrouve moins sur la drogue après ça. Mais bon, ça, c'est très en amont. Ce qui fera le sujet d'une autre émission. Ce qui me surprend, c'est que ça me surprend pas. C'est toujours la même chose. Si on parle du purple shit, de je veux dire en français, là, l'héroïne mauve, drôle de terme. Ouais. On parle en Colombie-Britannique, au mois de juin, 175 surdoses mortelles. C'est énorme. Mais ce qu'il y a, c'est que les surdoses, il y en a beaucoup plus que ça, c'est qu'elles ne sont pas comptabilisées. Si le toxicomane qui est affligé de cette maladie, qui prend une dose de fentanyl, fait une overdose, mais n'en meurt pas et ne va pas à l'hôpital, on ne sait pas qui en a fait une, là.
Ah oui, puis c'est probablement des milliers de surdoses comme ça qui surviennent. Nous, on en voit énormément. Des amis qui s'occupent, qui gèrent eux-mêmes la surdose, des gens qui se réveillent, qui se disent « Mon Dieu, j'ai fait un blackout cette nuit, j'aurais pu mourir, j'étais seule ». On le voit encore plus avec la pandémie en ce moment, étant donné que les gens consomment seuls, ils sont isolés pour consommer.
Ah, c'est dangereux.
Et on voit beaucoup de rechutes. Donc oui, si on regardait là, l'ensemble du tableau, si on avait les vrais chiffres, c'est hallucinant la quantité de surdoses mortelles et non mortelles, puis qui causent des conséquences quand même, là, même si c'est pas mortel.
Oui, mais c'est ça, c'est que entre le petit incident où on a un tout petit peu perdu la carte, puis surdose mortelle, il y a plein d'autres cas. Et c'est un peu comme la COVID. Les gens disaient « Oh, c'est une grippe ». Non, il y a des cas mortels, puis il y a d'autres cas où littéralement, t'es en train d'exploser par en dedans. Et les gens connaissent pas tous les symptômes et toutes les doses. Donc, n'importe quel produit, surtout un produit toxique comme ça, qui est pris en overdose, donc trop par définition, si on fait une traduction bête, trop, ben ça fait des dégâts, ça peut laisser des séquelles et ça fait des dégâts importants, là.
Oui, puis on sait que bon, la consommation a toujours existé, on a toujours vu des surdoses, mais là, en ce moment, ce qui se passe, c'est vraiment une crise majeure de santé publique, comme on le martèle, comme on n'arrête pas de le dire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la qualité des produits qui sont en vente, qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus toxiques. Donc, on en est vraiment là à des... quand on parle de milliers de morts comptabilisées là, entre 2016 et 2019, une personne qui décède, c'est trop. Donc, imaginez des milliers de morts. On a 15 393 morts au Canada entre janvier 2016 puis décembre 2019. C'est énorme. Donc là, on est vraiment dans un enjeu majeur qui surpasse là, les risques qu'on voit habituellement de surdose. Bon, si on prend des mauvaises quantités, là, on parle vraiment de produits hyper puissants et qui sont surtout hors de contrôle, en fait. C'est pas, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, donc qui disparaîtra pas demain. Et ça nous demande d'être un peu ouvert d'esprit par rapport aux solutions qu'on entrevoit pour sauver la vie des gens. Beaucoup de spécialistes qui travaillent dans le domaine, les gens qui sont directement sur le terrain, les deux pieds dedans, on a des solutions à offrir, mais c'est toujours une question d'acceptabilité sociale. On dirait que les gens portent moins d'importance quand on parle de mortalité en lien avec la consommation.
Ouais, c'est comme si un peu, ben c'était illégal, il y avait juste à pas le prendre.
Exactement.
Alors que ça marche pas comme ça du tout.
Choix. Et non. Puis là, on parle de gens qui consomment des drogues malgré le risque d'en mourir. Donc, on parle pas de gens s'en foutent de mourir. Ça dépasse là, la question du choix. Il y a toutes sortes de raisons.
Très souvent, ils ne savent même pas qu'ils le prennent. Les dealers se servent du fentanyl pour couper une autre drogue. Alors, oui, toi, tu penses faire l'autre drogue, puis et c'est coupé de fentanyl et de beaucoup trop de fentanyl, parce que le pocheur, faire son profit, doit mettre le poids, là, ça balance, là.
Exactement. Donc, les gens pensent consommer autre chose. La plupart du temps, c'est ça. Les gens pensent consommer de l'héroïne, mais on en retrouve aussi dans la cocaïne, dans les speed. Donc, tout le monde qui consomme une drogue qui est illégale s'expose à ce risque-là. Parce que ça prend pas plus qu'un petit grain de sel là, pour équivaloir à une dose létale qui va tuer la personne. Dans les laboratoires, parfois, on fait plein de drogues différentes aussi. Donc, ça peut se retrouver là juste dans une drogue, dans une autre drogue. Donc, c'est vraiment là, on est vraiment dans un monde d'incertitude là, dans tout ce qui est marché illégal, parce que c'est pas contrôlé, justement, parce que c'est laissé entre les mains d'un marché complètement illégal. En fait.
D'un marché criminalisé. C'est toujours ce qu'on fait. On l'a fait avec l'alcool. Et ça avait juste servi à rendre Al Capone milliardaire, c'est tout.
Oui, c'est ce qu'on constate, en fait.
C'est parce que c'est une déresponsabilisation. Quand on se dit, c'est légal, ils n'ont pas d'affaire à en prendre, donc c'est tant pis pour eux. Mais à ce moment-là, en gardant les choses illégales, on n'essaie pas d'améliorer la situation, on essaie juste de ne pas l'avoir.
Ça, c'est mon avis. Donc, on se met un peu la tête dans le sable par rapport à quelque chose qui existe, qui fait partie de l'être humain, qui va toujours en faire partie. La consommation existe et il va falloir l'accepter, parce que ça fait 100 ans qu'on a un système de répression, de prohibition, et ça ne fonctionne pas. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça empire énormément la situation.
Oui, parce que ça repousse les gens dans le noir plus loin, toujours. Oui. Ils doivent se cacher plus loin. Et mais c'est la même chose pour plusieurs choses dans notre société. Je crois que si on veut traiter, il faut pouvoir traiter les gens, donc il faut pouvoir les voir. Donc on peut pas les repousser dans le noir. Madame Turmel, je vais prendre tout de suite, je vous garde avec moi. En même temps, je vous rappelle que le docteur Sader est là. Il intervient pas pour l'instant, mais vous pouvez tous les deux intervenir et répondre aux gens qui m'appellent à ma place. Allez-y, hein, gênez-vous pas, je veux de la discussion. On a Smaïn au bord du téléphone. Salut Smaïn.
Ça va bien?
Ah oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va super bien. Moi, j'ai jamais consommé aucune drogue, mais je voulais juste... j'ai regardé un magnifique documentaire sur Netflix qui parlait justement de ces drogues-là. Oui. La plupart ont été introduites puis étaient vendues aux gens en tant que médicaments légaux pour réduire les douleurs extrêmes pour certains.
C'est le cas de la coke pour commencer. C'était le Coca-Cola. Ça s'appelle pas Coca-Cola pour rien. Là. Ça a été changé en cours de route, mais au départ, pas surpris que tout le monde aimait ça.
Ouais. C'est très bien fait. Ça parle aussi de la fentanyl, ça parle de la cocaïne, l'héroïne, les opioïdes ici. Puis ça a tracé un chemin, comment ça a commencé comme étant un médicament. Puis les gens ont dévié parce qu'ils ne trouvaient pas de substitut. Ils ont dévié vers des drogues de synthèse, puis ils sont devenus des addicts.
Oui, c'est vraiment effrayant. Je comprends. Merci beaucoup, Smaïn.
Bienvenue. Bonne journée.
Merci. Bonne journée. Docteur Sader, combien de gens, parce que là, on comprend que des gens qui souffrent et qui sont déjà accrochés après d'autres drogues sont des victimes parfaites pour le fentanyl, mais combien de gens ont été traités, par exemple, pour de la douleur avec des anti-inflammatoires, etc., sont devenus accrochés? À un moment donné, le médecin décide que la douleur devrait être passée, arrête de prescrire ça et tombe dans des drogues dangereuses. Est-ce que c'est un phénomène que vous connaissez?
Ah oui, c'est un phénomène qu'on voit. Écoutez, on a des gros problèmes dans la façon qu'on élève les gens. Tu sais, les gens ont été élevés, puis ça a été un discours depuis les années 90 que le contrôle de la douleur parfaite devait exister, tout le monde avait le droit d'être malade puis d'avoir aucune douleur, etc. Et il y a eu un mouvement dans les années, surtout 90, où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup poussé les médecins à mieux contrôler la douleur. Mais par contre, on est dans une société que, oui, la douleur, il faut la contrôler, mais la douleur totale qu'une personne vit, est aussi multiplié par son niveau de souffrance. Donc il y a la douleur puis il y a la souffrance. Je vais vous donner un exemple. Un jeune joueur de hockey là, 19 ans là, qui joue semi-professionnel ou qui est dans les presque rendu aux ligues majeures, qui se pète le genou d'aplomb, là, déchirure, ligament croisé, toute la kit, opération. Lui là, il a pas juste mal à son genou. Il souffre parce que là, il n'est pas encore rendu dans la Ligue nationale. Sa carrière est probablement finie. Il n'a pas nécessairement donné tout ce qu'il pouvait à l'école.
Donc, il y a un mélange
peur,
des deux.
Il a
oui.
peur. Ben oui, donc il y a la douleur et la souffrance.
Et on va être clair, un monde sans douleur et sans souffrance, ça n'existe pas juste en illusion par la drogue. Docteur Sader, j'aimerais ça que vous continuiez à m'en parler. Je suis obligé de prendre une pause, mais continuez direct après la pause. Je vais vous reprendre pour qu'on continue là-dessus. C'est très intéressant. On vous revient tout de suite.